Père Xavier Darode, vous êtes prêtre et vous êtes aussi diplomate. Est-ce que vous considérez votre mission comme une sorte de pont ?
Tout à fait, c'est vraiment l'expérience que j'en ai à travers tous les ministères que j'ai pu occuper dans les différents pays où j'ai pu résider. Ça a toujours été le sens de ma vocation, c'est-à-dire être capable d'établir des ponts, des liens entre les hommes, entre eux, mais également avec Dieu, dans cette relation, dans cette ambivalence. C'est ce qui rend un peu la difficulté de ma position, parce qu'un pont, par principe, n'appartient à aucune des deux rives, mais se trouve au milieu des flots. Et donc, on est au milieu du courant, essayant d'unir différentes rives, essayant de concilier parfois l'inconciliable. Mais c'est vraiment ce qui donne sens à ma vocation, de pouvoir exprimer une réalité chrétienne, une vie de l'Église, parce que je suis prêtre et membre de cette Église, mais pouvoir l'exprimer également d'une façon intelligible et compréhensible par le monde contemporain, notamment le monde diplomatique et le monde politique.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement entre être un prêtre dans un monde diplomatique ?
Mais moi, je ne rencontre aucune difficulté. C'est justement le jeu de mon ministère, c'est-à-dire la zone dans laquelle se déploie ce que je suis. Ça pourrait être difficile peut-être pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, pour moi, c'est le jeu naturel de ce que je suis, c'est-à-dire être pris entre deux mondes distincts, avec deux conceptions différentes, avec deux langages différents, mais qui expriment une même quête et une même recherche. Et l'enjeu est donc d'essayer de, non pas d'avoir deux droites parallèles qui se suivent indéfiniment, mais qu'effectivement, elles puissent avoir cette communication et exprimer cette quête commune.
Quand vous dites que c'est un jeu naturel, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel vous avez toujours baigné, si on peut dire ?
Oui, dès le départ. C'est-à-dire, par exemple, voyez-vous, avant d'entrer au séminaire, j'étais fonctionnaire des Nations Unies, donc j'étais diplomate, intégré dans les structures des Nations Unies, et c'est là qu'est venue ma vocation sacerdotale. Donc, pour moi, me retrouver dans le monde diplomatique, c'est servir mon peuple, c'est servir celui vers qui j'ai été appelé. Et donc, c'est assez naturel.
Est-ce qu'on peut vous demander comment est-ce qu'est venue votre vocation de prêtre ?
Alors ça, c'est une surprise. J'étais très embêté. Quand l'idée de devenir prêtre est venue, j'avais envie de faire de la politique. Je suis allé voir un vieux prêtre, ma foi, un saint homme, certainement, très savant, mais qui m'a dit, écoutez, il va falloir choisir. Et donc, me voilà pris entre deux options qui me rendaient l'une et l'autre très malheureux. Et puis finalement, les événements de la vie ont fait que j'ai pu rejoindre toujours ces deux fonctions. J'ai été donc expert aux Nations Unies, mais j'étais ensuite à l'aumônerie du Sénat, du Congrès de la Cour suprême des États-Unis pendant un an à Washington. J'ai travaillé à la conférence des évêques des États-Unis sur les questions de globalisation et de sécurité internationale. J'ai toujours donc été dans cette ambivalence du monde politique, dans cette ambivalence du monde religieux, et en essayant justement d'avoir une réflexion qui soit compréhensible et par l'un et par l'autre, et qui puisse servir l'un et l'autre. Parce que je ne les conçois pas dans une opposition, mais dans une unité. Il ne s'agit pas de les fusionner, parce que ce sont deux domaines distincts, mais de que chacun se respecte l'un et l'autre.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, au niveau de ces ambivalences politiques et chrétienne, quelles ont été des rencontres, des événements qui ont été pour vous assez formateurs ?
Certainement, ce qui a été formateur, ça a été des choses complètement extérieures à ces domaines. Parce que on ne peut être pontife entre les deux que si on fait vraiment l'expérience pleinement d'une chose et pleinement d'une autre chose. C'est l'expérience de notre humanité. Ce qui a donc été fondateur pour moi, ce qui me permet de faire ce que je fais, c'est effectivement d'abord cette expérience d'un ministère auprès des plus pauvres, d'une expérience de l'humanité souffrante. J'ai eu la chance, je le dis après coup, évidemment, mais j'ai eu la chance d'être paralysé, de devoir réapprendre à marcher, réapprendre à parler, réapprendre les simples choses de la vie. Et donc ça donne, si vous voulez, une expérience humaine qui donne cette assise, justement, cette stabilité qui qui permet du coup de faire ce lien entre l'un et l'autre. Donc les événements, pour moi, sont hors champ de cette jonction entre l'un et l'autre. Ce sont des simples éléments d'humanité, de rencontre avec des gens extraordinaires et qui ont simplement exprimé ce qu'ils étaient avec à la fois simplicité, attention, liberté et en ayant à la fois une retenue parce qu'il y avait une pudeur, mais aussi une grande liberté en disant « je me rends vulnérable aux uns et aux autres ». C'est probablement ce qui, pour moi, est fondamental dans ce que je fais. Vous savez, lors de l'ordination d'un prêtre, on pose la question « est-ce que le candidat a les aptitudes requises pour pouvoir être ordonné ?» Généralement, on chante les louanges. On dit « toutes les vieilles dames veulent prendre le thé avec lui, les jeunes veulent tous jouer au foot, il passe des heures scotché au plafond de la chapelle, en méditation, il connaît tout sur la philosophie, la théologie, c'est un grand savant, Monseigneur, ordonnez-le. » Ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'on m'a ordonné, on a tout de suite posé la question « le candidat a-t-il les aptitudes requises ?» Et l'évêque a dit « je ne cherche pas à savoir s'il sait tout faire, je ne cherche pas à savoir si c'est un saint, je ne cherche pas à savoir s'il est suffisamment fort pour pouvoir être ordonné, je cherche à savoir s'il est suffisamment faible pour pouvoir être accessible à la grâce et à l'amour. Mon ministère, malgré ses imperfections, essaye de vivre ça. Cette accessibilité, cette vulnérabilité qui me rend justement accessible aux uns et aux autres et donc disponible au monde un peu ambivalent de la politique, de la diplomatie et du monde religieux.
Vous avez dans votre famille aussi l'expérience d'avoir, je crois, de nombreuses sœurs.
Alors j'ai 7 sœurs, la chance d'avoir 7 sœurs. Donc c'est ce qui m'a donné la chance d'être stimulé justement dans ma vie, c'est-à-dire d'être accompagné, materné, certainement, ça c'est indéniable, mais aussi d'avoir, avec 7 sœurs plus maman, ça faisait 8 mères, avec 8 principes d'éducation différents. Chacun voulant redresser, ou chacune plus exactement, voulant redresser les torts ou les difficultés. C'est stimulant parce que c'est un regard féminin sur une vie et qui lui donne une sensibilité, une disponibilité que j'aurais peut-être pas eue dans un monde peut-être un peu plus brutasse.
Est-ce que ça vous a donné cette possibilité, comme le dit Jean-Paul II, d'être plus attentif au génie féminin, à la fois dans l'Église et dans le domaine politique?
C'est un parti pris pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas ignorer la moitié de l'humanité. J'en ai besoin. J'en ai besoin affectivement, j'en ai besoin pour simplement vivre. Si nous sommes deux personnes, un homme et une femme, c'est justement pour cette complémentarité de l'un et de l'autre. Et je crois que notre Église devrait justement être plus attentive à cela. C'est pour ça que quand j'ai travaillé à la conférence des évêques des États-Unis, j'étais particulièrement intéressé par le travail qu'ils y font sur le rôle et la place des femmes. Le nombre de femmes qui travaillent à la conférence à des postes de responsabilité est extrêmement important. Ils ont fait une révision du code de droit canonique visant justement à voir quels étaient les postes que pouvaient occuper des femmes. Parce qu'un certain nombre, de fait, sont réservés à des ministres ordonnés, mais énormément de postes sont ouverts aux femmes. Et donc, ils ont eu cette intelligence de dire « nous voulons que des femmes occupent ces postes ». Et d'avoir cette intelligence, cette liberté, du coup, de donner une sensibilité différente. C'est peut-être moins efficace, apparemment. Mais dans le long terme, c'est beaucoup plus fructueux parce que c'est respectueux, effectivement, de notre humanité qui est faite et d'hommes et de femmes.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, justement, à l'Église de France à ce propos?
Que certainement, on ne peut pas considérer les femmes comme de simples exécutants. Corvéables, à merci. J'ai été frappé, dans mon ministère comme curé de paroisse, de cette multiplicité de femmes qui se donnent librement pour le service de l'Église. Notre formation au séminaire en France occulte cela. C'est-à-dire, on vit pendant 7 ou 8 ans dans un contexte exclusivement masculin, et tout d'un coup, on se trouve basculer dans un contexte quasiment exclusivement féminin, sans avoir les clés nécessairement pour pouvoir gérer l'une et l'autre situation. Donc l'Église de France ne peut pas cantonner les laïcs féminines juste dans le rôle de balayer l'Église, de faire la cuisine pour Monsieur le curé. Il y a tout un champ de possibilités qui, à mon sens, est ouvert à la place des femmes dans l'Église. Il ne s'agit pas de revendiquer des places. Il ne s'agit pas d'entrer dans un conflit entre hommes et femmes. Il s'agit tout simplement de reconnaître que nous sommes partenaires de quelque chose qui nous dépasse. Et donc de travailler l'un et l'autre ensemble, c'est tout. L'enjeu, à mon sens, pour pouvoir réaliser cette synthèse de l'un et de l'autre, est justement d'être au clair avec nos propres sentiments et notre propre humanité. Et d'accepter de dépendre de ce que nous sommes.